L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. On retrouve l'Université des sciences et pratiques gastronomiques de Quimper. Vous savez maintenant que c'est une association qui vient une fois par mois dans l'EM, qui défend une alimentation de qualité. Mais pour quelle l'alimentation est bien un sujet pas seulement gustatif, aussi politique, culturel. C'est aussi un sujet économique. On nous dit sans cesse, manger 5 fruits et légumes par jour, moins de viande et plus de légumineuses, éviter les aliments ultra transformés. Et donc, cuisiner, ça coûtera moins cher, ce sera meilleur pour votre santé. Le problème, c'est que cuisiner, on ne peut pas ou on ne sait pas toujours. Alors, est-ce qu'on peut quand même bien manger sans cuisiner? Nous allons demander au fondateur de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. Il est cuisiné, il sait. Bonjour Xavier Hamon.
Bonjour Véronique.
Alors, c'est un bon sujet. Hein. C'est un sujet, en fait, finalement, j'ai cherché un peu dans la littérature. Je n'ai pas trouvé d'article vraiment là-dessus. Je pense que ça n'a pas été traité. On est les premiers, hein. Vraiment. Hein.
Je crois.
Voilà. Et donc, on va bien définir les termes. On va commencer par définir ce que c'est bien manger à minima.
Oui, alors bien manger, ben, c'est bien de commencer par ça parce que ça va montrer que c'est pas seulement cuisiner, bien manger. C'est d'abord prendre conscience de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, tout le travail qu'on fait autour de la sensibilisation à des productions locales, mais qui ont du sens, qui ont un sens aussi agronomique. Donc bien manger, c'est quand même avoir à minima un retour à la compréhension de ce que c'est que le cycle du vivant, d'un sol vivant. On n'a pas besoin d'être jardinier pour ça.
Non.
Mais d'avoir cette compréhension que voilà, ça n'arrive pas comme ça tout cru dans l'assiette. Et que derrière...
qu'il y a des saisons, par exemple.
Par exemple,
ça.
Exactement. Donc repartir à la base. Et ça ne peut pas faire forcément partie... Ça fait pas partie des apprentissages qu'on fait aujourd'hui. Et on est bien obligé d'y arriver par d'autres moyens. Mais la première des choses, bien manger, c'est effectivement savoir ce qu'on met dans l'assiette, pourquoi ça a été fait, comment ça nous arrive. La deuxième chose, c'est bien manger, c'est aussi un moment, un partage. Et on l'a dit quelques fois, mais peut-être pas assez souvent. Finalement, derrière le bien manger, il y a ce mythe de la bonne cuisine, mais elle sert à quoi ? Et un des éléments importants du bien manger, c'est le plaisir qu'on y passe à table. Ça me fait penser à un administrateur de l'université qui, il n'y a pas longtemps, m'envoie un petit message en me disant « Mais je pense qu'il avait passé un mauvais repas. » et il me dit « Penses-tu que ce qu'on met sur la table influence la qualité de la discussion ?»
Il paraît que oui.
Et moi, j'en suis convaincu.
Eh oui, je crois qu'il y a des études là-dessus. Ouais, sur comme quoi ça paraît meilleur quand la compagnie est bonne.
Et inversement, la qualité du plat peut aussi influer sur le moment qu'on va passer. Donc là, ça va dans les deux sens.
Oui, tout à fait. Ouais.
D'ailleurs, j'avais été sollicité pour réécrire une petite recette à partir des menus qui étaient servis à la table des diplomates français quand ils recevaient leurs homologues étrangers. Et on voyait bien qu'il y avait des enjeux énormes dans la construction d'un menu. Et en fonction de ce qui était proposé, il y avait une volonté de promouvoir quelque chose, une idée, et de l'accentuer par le repas. Et donc cette attention-là, elle est très importante. Quand on commence à réfléchir à ce qu'on va faire à manger pour quelqu'un qui vient à la maison, on pense déjà à la qualité du moment qu'on va passer avec lui.
Je crois que dans les émissions du style Un dîner presque parfait, c'était aussi un peu le but, quoi. Il n'y avait pas que ce qu'on mettait dans l'assiette.
Hein, exactement, exactement.
C'est l'ambiance aussi, importante.
Et puis bien manger, ben effectivement, c'est la préparation, la préparation du repas, et ça rejoint le thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que préparer un repas ? Est-ce qu'on est obligé de cuisiner, forcément ? Mais en tout cas, il faut passer par cette case-là. Mm-hmm. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, il faut quand même quelqu'un le transforme.
Il ne va pas se faire tout seul, mais on aimerait, hein, mais la sorcière bien-aimée n'existe pas.
C'est ça.
Et alors justement, donc on va essayer de démystifier ce qu'on appelle cuisiner, parce qu'en fait, oui, cuisiner, c'est pas non plus forcément sortir le piano et puis toutes les casseroles en cuivre, etc. C'est ça, c'est juste préparer quelque chose.
Eh ben oui, là on attaque un mythe, effectivement, parce que si cuisiner, c'est les casseroles en cuivre, le piano, la toque, le tablier, on n'est pas sorti. Et puis surtout, on n'est pas prêt d'avoir ça à la maison.
Ben non.
Voilà, Vous regardez les programmes immobiliers qui sortent aujourd'hui de terre, les surfaces se rétrécissent, les prix augmentent, la place de la cuisine devient ridicule. Donc on a aussi des contraintes énormes qui fait que cuisiner devient un moment différent. Il y a même aujourd'hui des programmes immobiliers en région parisienne, mais ça arrive, et à Londres ça existe déjà, où les appartements sont vendus sans cuisine.
Ah oui.
Donc c'est-à-dire qu'on a intégré que les gens ne cuisinent pas chez eux.
Ah oui.
Donc d'accord. Ça réduit.
Ils sont même pas. C'est même pas dans un collectif, par exemple, où il y aurait une cuisine commune. Non.
Alors non.
On pourrait rêver ça. Quand
c'est
même.
Dans un collectif où au rez-de-chaussée vous avez des plateformes de livraison de repas.
Voilà. Ouais.
Donc c'est aussi ça. Donc démystifier, c'est entre ce que je viens de vous dire sur des livraisons de repas faites dans des containers, des Algéco, avec des gens qui sont sous-payés pour une nourriture standard faite en grande quantité, et l'image du piano et de la toque et de la casserole en cuivre, qu'est-ce qui reste?
Oui.
Et en fait, il y a un panel incroyable.
C'est ça.
Mais on arrive à une espèce de vision comme ça, très extrême. Avec d'un côté, vous avez Top Chef qui présente des performances tous les mercredis. Et donc, si c'est être cuisinier, si faut être aussi performant comme ça pour être cuisinier, alors on n'est pas prêt de manger tous les jours. Ça, c'est bien pour le dimanche.
Et encore une
fois de temps en temps, pas tous les dimanches. Sinon, il faut s'y mettre dès le jeudi.
C'est ça.
Donc, cuisiner, ça peut être beaucoup plus simple. Ouais. C'est déjà, quand on a commencé la première étape de bien connaître les saisons, on se simplifie la vie.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on cuisiner déjà ce qu'on a sous les yeux, c'est déjà une simplification. On n'a pas besoin de chercher une recette à l'indiquer, oui. Où il nous manque trois ingrédients. C'est aussi s'émanciper des recettes, revenir à des bases, à des bases toutes simples. Samedi midi, j'ai fait manger à des techniciens pour un festival. C'était un bouillon de bœuf. C'était la viande que j'avais cuite pour le soir. J'avais fait un gros bouillon, un peu réduit, des pâtes dedans, des haricots. C'était terminé, ils se sont éclatés. C'est simple. Mmh. C'est simple. Mmh. Voilà, vous allez me dire, il a fallu cuire la viande, etc.
Mais, bien sûr, oui. Mais moi, j'ai fait encore mieux. J'ai fait avec le jus des lentilles. J'avais cuit des lentilles, j'ai gardé le jus et j'ai rajouté. J'avais des magnifiques fans de betterave et que j'ai juste fait réduire un petit peu à la poêle avec un peu de sauce soja. Et j'ai tout mixé ensemble et c'était absolument délicieux. Je promets.
Et bien voilà. Non, mais ça, c'est génial de garder l'eau de cuisson des légumineuses pour en faire autre chose.
C'est plein de protéines, c'est ça, non?
Mais il y a de protéines, il y a du fer. En fait, tout ce qu'on fait cuire à l'eau, il faut réfléchir à ce qu'on fait avec l'eau. Ouais. Parce qu'en général...
Surtout maintenant qu'avec ces sécheresses nous guettent.
Exactement, la sécheresse qui nous guette. Et puis finalement, quand on cuit dans l'eau, on fait quoi? On fait un transfert. Donc ce qu'il y a dans le produit part dans l'eau. Donc plus on cuit dans
dommage
l'eau...
Dommage de jeter.
Donc, non, ouais. Grosso modo, on vide le produit de sa substance et ça, on le jette dans l'évier. Donc voilà, c'est des choses toutes simples. Sortir aussi du schéma, alors je crois que ça se perd un peu, mais parfois il y a encore des familles qui s'obligent à faire ça, le schéma entrée, plat, dessert. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'équilibre alimentaire, on sait que c'est pas forcément comme ça qu'on arrive à équilibrer nos assiettes, et puis il faut tenir compte du temps qu'on a. Donc cuisiner, c'est aussi ne pas se forcer à être des parfaits exécuteurs d'un manuel de cuisine, mais c'est bien de réfléchir, parfois aussi de planifier. Mmh. Se dire, allez, dimanche soir, on se pose ensemble, qu'est-ce qu'on veut manger en famille,
oui, c'est ça, ouais.
et qu'est-ce qu'on a dans le frigo, qu'est-ce qui nous manque, c'est rendre un peu plus efficace le temps de la cuisine pour pouvoir justement continuer à cuisiner. Mmh. Sinon, si effectivement, chaque fois qu'on se dit, il faut cuisiner, j'ai besoin de 2 heures devant moi, c'est pas possible. Ouais.
Alors, il y a quand même des freins objectifs, même sans être dans le Top Chef et la toque et le piano, il y a quand même des freins objectifs. Enfin, il y a des bonnes raisons pour lesquelles certaines personnes ne cuisinent pas. On est d'accord,
quoi. Ah oui, complètement.
Quelles sont-elles, ces raisons?
La première, elle peut être liée à des emplois du temps. Voilà, on est dans une région où il y a énormément d'emplois en coupé ou alors en décalé. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en 2-8 ou en 3-8 avec des moments justement de famille qui sont plus coordonnés, où les gens ne sont plus ensemble à la maison au moment du repas. Il y a des horaires coupés, On est une société de services aujourd'hui, services à la personne notamment. Et bien, ces emplois du temps du quotidien qui sont complètement hachés, déstructurés, c'est pas facilitateur pour faire à manger. Et forcément, on a un peu envie d'aller à la facilité. Ça, c'est un premier frein, nos emplois du temps, notre mode de vie.
On est crevé aussi quand on a des emplois du temps hachés, c'est vrai que c'est très fatigant. Hein.
Dès qu'on intègre des horaires de nuit, par exemple.
C'est ça.
Ça devient compliqué. Ouais. Les horaires du soir, les horaires très tôt le matin. On sait très bien que quand on commence très tôt sa journée le matin, il y a une deuxième journée qui nous attend à partir de 14h. Mmh. Et c'est pas du repos forcément.
Ou il y a aussi des temps de alors chez nous, il y en a peut-être un peu moins, mais des temps de transport qui sont très longs. Donc en fait, on se dit, ce qu'on va sacrifier, ça sera peut-être le moment où on va cuisiner, où on va préparer un repas. Quoi, en fait.
Exactement. Donc la conception de son propre emploi du temps, c'est un impact sur ce qu'on va faire à manger. Une deuxième chose importante, c'est qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qu'on nous a transmis ?
La formation.
Au-delà de la formation.
C'est vrai que formation, c'est un grand mot.
Mais le savoir, transmission, savoir un petit peu. Tout simplement. Et ce qu'on n'a pas transmis, on ne va pas l'inventer. Et qu'est-ce qu'on nous transmet ? Alors, on peut toujours avoir le carnet de recettes de la grand-mère pour refaire les choses ou de sa mère, ou souvent de sa mère quand même.
Ouais, c'est souvent autres, féminin.
C'est rarement du père quand même.
Ouais. Ah, il y en a quelques. Moi, j'ai quelques exemples, mais c'est vrai que c'est plus.
Oui, heureusement, heureusement que ça change un peu, mais traditionnellement, c'est quand même comme ça que ça se transmet. Est-ce que cette transmission a été faite ? On est quand même passé d'une génération où je vois ma maman qui aujourd'hui a 75 ans, elle a été très contente de passer beaucoup moins de temps en cuisine. Et elle n'a sûrement pas transmis tout ce que sa mère lui a transmis. Donc moi j'en ai fait mon métier, mais mon frère et ma sœur, c'est pas la meilleure transmission qu'ils aient eue. Donc la transmission, elle est importante. Après, pour cuisiner, il faut aussi savoir s'occuper de produits bruts. Cuisiner, c'est transformer quand même.
À minima.
Mm-hmm. On peut toujours faire des choses très simples, mais à minima, il faut au moins transformer, à minima de découpe, un peu d'assaisonnement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des freins aussi sur... des freins financiers, hein, tout simplement. Hein. Par exemple... Quand je dis que cuisiner, c'est partir de produits bruts, où est-ce qu'on trouve des produits bruts ? Est-ce qu'on les trouve ? Est-ce que c'est facile à trouver ? En fonction de là où on habite, il y a pour moi le périmètre d'accessibilité au circuit de distribution.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on sait les trouver ? Parce que parfois, on en a à côté de chez soi, mais on ne le sait pas, tout simplement.
Mais on voit bien que, exactement...
Ouais. C'est encore un savoir qu'on n'a pas, quoi. Ouais, c'est ça.
Il y a encore des gens qui découvrent qu'il y a un marché le vendredi après-midi à Carfintin, à Quimper. Et les gens du quartier.
Oui, donc, c'est ça, bien sûr.
Donc ça veut dire aussi qu'il y a effectivement des circuits dans les villes ou même dans les campagnes. On peut passer pendant des années devant une ferme qui fait un marché à la ferme toutes les semaines sans savoir qu'il existe ou sans y prêter attention. Parce qu'on n'est pas dans le réseau qui permet d'avoir l'information. Mmh. Alors, dans un monde où on est bombardé d'informations, c'est quand même intéressant de comprendre que c'est un vrai frein.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi, en termes de moyens, peut-être la question des équipements. Alors on disait, si on n'a carrément pas de cuisine, c'est réglé. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas équipés, quoi, tout simplement.
Ah, tout simplement, pas équipés. Encore une fois, j'ai utilisé un équipement public ce week-end flambant neuf, équipé avec des plaques de cuisson en fonte électrique. Ça ne se fait plus, personne ne cuisine, parce que c'est impossible de cuisiner avec ça.
Parce qu'on ne peut pas réguler la chaleur, c'est
exactement.
Ça le problème ?
Exactement. On n'arrive pas, il y a une telle inertie dans ce type de matériel que, alors pour le coup, si on ne sait pas cuisiner, si on n'a pas un minimum d'expérience, alors c'est rédhibitoire.
Là,
on fait une fois, c'est terminé, on ne cuisine plus de sa vie.
Ouais. C'est mieux avec les plaques à induction, par exemple
On peut réguler la chaleur.
Okay.
Le cuisinier, il a besoin effectivement de réguler très finement la chaleur, d'avoir des cuissons très douces ou très élevées, mais si on a une inertie trop importante sur la plaque, entre le très doux, avant que le très fort devienne très doux, il se passe 2 heures, donc c'est pas possible.
Ouais, en effet.
Mais l'équipement, oui, on peut ne pas être équipé, on peut mal équipé, des casseroles qui attachent, pas savoir l'utilisation d'un corps gras, ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Le TEFAL nous a désappris à nous préoccuper des matériaux.
Ouais, c'est vrai.
Puisqu'il n'y a plus rien qui collait, donc après maintenant on sait que c'est nocif, qu'il faut
les grands. On cherche d'autres poils. Voilà. Et du coup ça attache à nouveau et du coup c'est plus fait.
Exactement.
C'est vrai.
Exactement,
c'est vrai,
ça.
Hein, tout à fait.
Donc l'équipement c'est pas rien. Et puis il y a des gens qui sont sous-équipés. Quand on n'a qu'un réchaud pour faire à manger dans une chambre d'étudiants, ça existe. Et des étudiants, il y en a quelques-uns quand même. Donc il faut quand même qu'ils mangent. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au plus simple. Eux aussi ils ont une vie. Alors, le temps, ils en ont un petit peu, parce que je sais qu'ils font des sorties quand même, de temps en temps. Mais il faut aussi aider à cette pratique de la cuisine. Et la question de l'équipement, elle est très importante. Tout le monde ne peut pas s'équiper avec les fameux robots.
Comment s'appelle-t-il ? Ceux qui font la cuisine tout seuls, les Thermomix ou les compagnies. Là,
ouais. Qui en soit une bonne solution. Alors, moi, en tant que cuisinier, évidemment, j'étais vexé quand j'ai vu ça arriver. J'ai dit, on va tuer le métier, ça ne sert à rien.
Mais n'empêche que ça marche bien.
Mais en fait, je me rends compte que dans la réalité, les familles qui s'en servent, c'est une vraie aide, ça fait gagner du temps, ça permet de cuisiner là pour le coup, ça permet d'avoir aussi des modes de cuisson qui sont pas très agressifs, qui permettent de garder, il y a beaucoup de qualités à ce type d'équipement.
Ouais. Sauf son prix.
Par contre le prix, il est rédhibitoire.
C'est ça.
À moins de 1000 euros, il se passe rien.
Voilà.
Donc ça, c'est l'équipement, il est pas anodin, savoir s'en servir. Voilà.
Et puis il y a l'envie. Enfin, quand on est tout seul, c'est vrai que est-ce qu'on a envie de cuisiner, quoi. C'est quand même toute la question.
Moi, très honnêtement, tout seul, non. J'ai pas spécialement.
Ah non, c'est ça.
J'ai besoin d'inviter du monde pour trouver le bon prétexte à cuisiner. C'est pas forcément un plaisir inné de cuisiner pour soi. Ça veut bien dire que cuisiner va avec la convivialité.
Mais oui, c'est ça, bien sûr.
Ignorer ça. Or, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de familles monoparentales avec des adultes qui sont seuls avec des enfants. On a aussi des personnes âgées qui sont seules à la maison.
C'est d'ailleurs souvent un problème du grand âge, c'est la dénutrition, parce que les gens ne se font plus à manger. Hein.
Exactement. Ouais. Ils ne s'hydratent plus, ils ne se font plus à manger. Et toutes les générations sont convoquées par ce problème-là. On se retrouve à un moment seul étudiant dans sa chambre. Les personnes âgées, on en a parlé. Les jeunes mamans ou les jeunes papas avec leurs enfants dans des foyers monoparentaux, ça existe. Quand les enfants sont plus là, on se retrouve tout seul. Donc et quand on dit que cuisiner c'est la convivialité, là ça commence à devenir compliqué. Moi, je vais être convivial avec moi-même, mais ça c'est limite.
C'est ça, parler passionné, ouais. Et encore, ouais. Et donc, alors, on a parlé des freins à la cuisine, mais on va peut-être proposer quelques solutions justement pour lever tous ces freins.
Ouais,
déjà sur le plan, donc, voilà, du matériel, de l'équipement, qu'est-ce qu'on peut proposer de plus facile pour des gens qui voudraient quand même s'y mettre, qui ne sont pas trop équipés, mais qui voudraient s'y mettre quand même. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ?
Ce qu'on peut leur proposer, c'est d'avoir des choses assez simples. La cocotte marche très bien.
Ouais, c'est vrai.
C'est beaucoup moins onéreux que ces robots ultra performants. Et je trouve que ça fonctionne très très bien.
Alors, cocotte minute quand même, c'est ça ?
Il y a les deux. Moi, je préconise les deux. Cocotte minute. Parce que ça accélère le temps de cuisson, conserve toutes les saveurs et ça marche, ça fonctionne très bien. Le principe, c'est comme dans ces fameux robots, finalement, on met tout, on met sous pression, c'est une cuisson sous pression. Donc il n'y a pas de déperdition, ça va assez vite. Dès que ça chante, c'est cuit. Donc voilà, on est sur des techniques simples où on peut mélanger les ingrédients sans les dénaturer pour autant, on peut faire des grands plats.
Quand même un peu moins cher que le Thermomix. Enfin,
beaucoup moins cher que le Thermomix. On peut en hériter. On en trouve sur tous les marchés, les brocantes. Ouais. J'en trouve toutes les semaines, quoi. Ouais. Sur les vide-greniers. Et la cocotte en fonte. La cocotte en fonte, moi, je l'utilise énormément à mon domicile. Au restaurant, c'est moins adapté, mais quoique. Mais cette cuisson-là, elle a l'avantage de pouvoir être terminée au four. Donc, si on n'a pas de four, ça règle le problème, c'est la cocotte minute. Mais si on a un four, franchement, la cocotte minute permet de faire des cuissons dans des fours à basse température.
Cocotte en fonte.
Cocotte en fonte. On peut démarrer sur un feu vif. Alors là, pour le coup, gaz. La fonte ne va pas sur l'induction. Mais un petit réchaud gaz, on démarre la cuisson dans une cocotte, on met des oignons, de l'ail, les légumes, la viande, un petit mouillement, un bouillon. Couvercle au four. Et là, une cuisson douce à 90-100 degrés, l'avantage, c'est qu'à cette température-là, ça consomme assez peu d'énergie.
Et oui, c'est important aussi, par les temps qui courent.
Par les temps qui courent, c'est pas anodin. Et surtout, la chaleur est conservée. Donc voilà, moi, je préconiserais vraiment une poêle sans téfal, si on veut saisir des petites choses, une cocotte minute, une cocotte en fonte, et puis on a aujourd'hui, avec une casserole en plus, on a quatre équipements là,
ça
simples.
Suffit déjà, c'est bien, ouais.
Et puis à un moment donné, il faut à minima s'équiper quand même, mais c'est faisable.
Et éventuellement, on peut louer. Enfin, est-ce qu'il y a des endroits où on peut louer pas cher ce type d'équipement ? Pas trop, non, en fait, c'est ça. Hein, ça manque un peu, ce genre d'endroit.
Ça existe en fait. pour les associatives qui veulent faire des événements. Il y a des boîtes de location.
Mais c'est en grand volume, quoi. Ouais.
Mais c'est en grand volume. Mmh. À ma connaissance, ça n'existe pas.
Ça viendra peut-être. Hein. C'est comme les cuisines partagées. Peut-être que ça viendra un jour. Hein,
mais je pense qu'une des solutions, c'est quand même celle-là.
C'est ça. Ben, on parlait de l'habitat participatif récemment, et c'est vrai que on se disait, voilà, ben, c'est ça. Il y a quoi, une dizaine d'appart, une cuisine pour tout le monde ou deux, et puis voilà. Ça résout un peu la question et des équipements et du matériel, quoi, aussi.
Et puis ça résout la question de la culpabilité du fait de pas cuisiner, parce que là aussi, on en a un peu parlé, mais.
Ouais, on les fustige, les gens qui cuisinent pas. Hein.
Si tu cuisines pas, forcément. Forcément, tu peux pas y arriver. Et ben oui, mais c'est pas comme on a très bien expliqué que c'était pas si simple que ça, et que ça allait pas de soi, et puis qu'on n'était pas tous héritiers d'une grande lignée de cuisiniers, d'une batterie de cuisine, etc., d'un entourage qui nous permet de trouver les bons produits au bon endroit parce qu'on n'a pas la bonne info. Et ben il va bien falloir à un moment donné qu'on se donne les moyens pour que tout le monde mange, même s'il cuisine pas. On revient à la première question de départ. Oui, on peut très bien manger sans forcément cuisiner, à condition qu'on passe par des organisations collectives.
C'est ça. Et est-ce que les centres sociaux se mettent vraiment de plus en plus à la cuisine ? Enfin, est-ce que déjà ils ont l'équipement, mais
alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a pas un centre social en France qui ne propose pas d'atelier de cuisine. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut juste se questionner sur savoir quel est l'objectif de cet atelier de cuisine. Est-ce que c'est une animation ? Et à ce moment-là, on voit bien que ce sont des gens qui aiment cuisiner, qui viennent là, qui se retrouvent pour se faire plaisir. Ou est-ce que ça a vocation à avoir un projet de territoire, un projet de quartier ou un projet social, ouais, qui permet de donner accès, et ce qui n'est pas du tout la même démarche.
Non.
Et c'est là que les cuisines partagées ont tout leur espace. Parce qu'effectivement, vous n'aimez pas cuisiner, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous n'avez pas le temps de cuisiner, ok. Mais si vous êtes condamné pour ça, à mal manger, c'est un problème. On vous propose, nous, de participer à un projet plus collectif, où vous allez donner de votre temps, mais pour éplucher les carottes, pour servir, mettre la table, faire le compost, faire une conserve un jour. Et en contrepartie, vous gagnez le droit de venir manger, et parce que tout ça est encadré par quelqu'un qui est un professionnel dont c'est le métier, et qui a aussi une capacité à animer cet atelier.
Alors ça, c'est facile en ville, enfin les centres sociaux d'ailleurs, c'est en ville. Il y a le problème des zones rurales, là. Alors je crois qu'il existe des cuisines mobiles, enfin des trucks, en fait, des camions avec un projet social, mais bon, je crois que c'est encore très rare, quoi, ce genre de...
Alors, en milieu rural, la question se pose effectivement c'est la mobilité qui pose problème. On se rend compte quand même que on vient de faire une expérience dans le quartier du Braden avec un atelier de cuisine. Alors, on n'est pas en milieu rural, mais par contre, ce qui fonctionne bien et qui devrait fonctionner aussi en milieu rural, c'est cette capacité à aller vers les gens. Et plutôt que de faire l'atelier de cuisine dans une salle, on l'a fait en plein air, sous un chapiteau, mais c'était ouvert aux quatre vents. Et on a vu comme ça découvrir, arriver des enfants, des curieux, qui sont venus une demi-heure, d'autres
ça
qui sont restés...
bon et tout ça.
Ouais, ils sont restés une demi-heure, ils ont
au bout d'un moment,
quand ils m'ont entendu parler de bio et de graines, et ils se sont méfiés, ils sont partis en courant. D'autres qui sont restés... Non mais voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être au cœur des quartiers, mais aussi des lieux de vie. Si on veut toucher plus de monde, si on veut bien manger, ça doit concerner plus de monde, alors il faut aller vers eux. Et dans le milieu rural, vraisemblablement qu'il y a moyen de... Alors, on a parlé de cuisine partagée à l'échelle d'un quartier. Pourquoi pas un lieu de rencontre et de cuisine à l'échelle d'un hameau, d'un village. Et là, pour le coup, on n'a plus qu'à s'organiser pour aller chercher les gens et les amener. Mais la cuisine, elle a besoin d'un lieu central. Donc ça peut être un food truck qui s'installe momentanément ou à date régulière dans un hameau, dans un village. Mais ça, c'est possible. Un exemple prochain, tout juillet et août, l'université va aller, avec l'Alliance des cuisiniers, cuisiner dans une ferme, dans le pays de Redon. Au départ, c'était pour faire à manger autour d'un concert qui clôturait le marché de producteurs. Et puis on s'est dit, ben non, une fois qu'on a installé tout, le lendemain, on va proposer aux gens de venir cuisiner avec nous, passer un moment en cuisine, on prend un thème, juste pour décomplexer les gens, démystifier la cuisine. Et du coup, ça anime tout le village, tout le hameau.
C'est voilà. Ouais. Et ça pourrait, c'est vrai que toute l'année, enfin, je crois que récemment, on a eu une invitée qui parlait de ça, qui disait que dans leur amour, ils ont la chance de bien s'entendre et donc ils s'échangent des plats. Et, voilà, on peut cuisiner pour les autres aussi et puis c'est un échange de bons procédés. Hein. Voilà, moi je sais cuisiner, toi tu sais bricoler, etc.
Exactement. Alors voilà, après, il y a des endroits où ça doit être organisé parce qu'il y a une volonté. Je pense au quartier en milieu urbain, il y a besoin, à mon avis, que ça soit coordonné parce qu'il y a aussi besoin d'investissement un petit peu en matériel et en organisation. Tout ça ne peut fonctionner que s'il y a un minimum d'organisation. En milieu rural, ça peut fonctionner sur l'énergie des gens, effectivement. Mais ça peut aussi
s'encourager. Ça peut être la commune qui encourage ça.
Ça peut être la commune qui a envie de le faire. Mmh. À condition que derrière, ce ne soit pas justement de l'occupationnel ou de l'animation uniquement. Mais qui est bien un projet global qui permette de faire du lien entre les territoires, entre les gens, entre les générations. Moi, on accompagne la ville de Sautron en ce moment sur la restauration collective. Ils ont une petite partie sur le portage à domicile, surtout pour les personnes âgées. Là, il y a un vrai souci. Une fois que c'est réchauffé à la maison, c'est quand même pas génial.
C'est souvent pas très bon. Hein.
Quand bien même on aurait mis des bons produits, qui soient bien transformés. Mais plus on met de distance entre le moment où c'est cuisiné et le moment où c'est mangé, et tous les efforts qu'ont été faits avant sont détruits. Donc, bien manger bien cuisiner, qu'on cuisine ou pas, finalement, ça veut dire remettre du lien.
C'est ça. On en vient toujours à la même conclusion dans ces émissions.
Toujours.
C'est ça. Merci Xavier Hamon. On retrouvera une dernière fois l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. Ce sera le 20 juin. À bientôt.